Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le week-end des experts, deuxième partie de ce rendez-vous animaux. Très bon dimanche avec nous. Merci d'être là. Vous le savez, chaque dimanche entre 6h et 8h, c'est Laetitia Barlerin, notre vétérinaire, qui nous accompagne. Et puis ensuite, tout à l'heure, on retrouvera entre 8 et 10 l'automobile avec Jean-Luc Moreau. N'oubliez pas, c'est important. Aujourd'hui, 14 février, c'est la...
Saint-Valentin, la fête des amoureux.
Ah, ah. Bon. Ma poulette.
Ma pupusse.
Tu es la plus belle. Bon, ben oui, c'est la Saint-Valentin, donc aujourd'hui, il faut sortir le grand jeu, Laetitia. On est d'accord? Mais nous, alors humains, on sort le grand jeu pour la Saint-Valentin. Si on parlait un peu des animaux.
Eh oui, des amours des animaux.
Eh oui.
Et nous sommes avec celui qui parle le mieux, pour moi, des amours des animaux, ou en tout cas des animaux. Il s'agit de Marc Giraud, qui est journaliste naturaliste et auteur de « La vie rêvée des morpions et autres histoires de parasites » aux éditions de La Chaux et Niestlé.
Tout un programme, j'ai envie
tout
de dire.
Tout un programme. Marc, bonjour.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Alors, bonjour Marc.
Alors, vous êtes passionnant et vous rendez aussi passionnant la vie des parasites, quoi. Voilà, c'est quand même osé de parler de la vie rêvée des morpions le jour de la Saint-Valentin. Et pourtant... Voilà, le morpion, on l'appelle aussi le papillon d'amour.
Oui, ou le toto, les morbacs, enfin, ils ont plein de noms, hein, parce que depuis longtemps. Hein.
Le papillon d'amour, c'est pas mal quand même. Alors, ça ressemble à quoi un morpion amoureux?
Alors, la vie du morpion, c'est pas sa vie accrochée au poil pubien, ça suce le sang de sa victime, mais bon. Et de temps en temps, ça s'accouple dans sa forêt natale. Et après, la femelle pond tous les jours quand même. Hein, c'est assez
poétique,
plusieurs dizaines d'œufs.
D'accord. Et alors ça, c'est on va dire dans notre intimité, pour rester poli.
Alors voilà, les morpions, ça se refile pendant les rapports sexuels principalement.
Oui.
Aussi quelquefois pendant un accouchement, l'enfant peut naître avec des morpions dans les cils. Et avec les cunilingus, puisqu'on parle d'amour, hein. Donc c'est dans le romantique.
Attendez, en ce moment, c'est les barbes quand même à la mode.
Alors là, ça survit pas longtemps dans une barbe, un morpion.
Non.
C'est très adapté à son milieu, voilà.
D'accord.
Et le problème pour le morpion aujourd'hui, c'est la déforestation. Parce qu'en fait, la mode est à l'épilation. Vous savez que 80% des étudiants américains s'épilent le pubis, donc plus ou moins partiellement. Hein. Il y a la mode du ticket de métro, de l'intégrale, etc. Enfin, les filles, les garçons, tout le monde le fait.
J'ai entendu parler de l'Iroquois aussi, mais j'en suis pas sûr.
Votre vie privée ne nous regarde pas.
Non, mais j'ai... Ah ben bravo. Félicitations.
Donc le morpion est une espèce en voie de disparition quand même.
Voilà, alors le morpion disparaît à cause de la déforestation intime. En revanche, il y a un autre parasite qui est en pleine prolifération, c'est le pou à cause de la mode des selfies. Parce que pour faire un selfie, les deux personnages souriants se rapprochent, touchent leur chevelure devant devant la photo et paf.
C'est pas vrai.
Et ben les poux déménagent beaucoup.
Donc
ils trouvent des nouveaux territoires comme ça.
C'est dingue. Grâce aux selfies ou à cause des selfies, il y a plus de poux.
Voilà. Donc voilà, nos modes sont suivis par nos parasites de très très près.
Et alors c'est quoi la vie sexuelle d'un poux? Des époux-poux.
Ils sont bien membrés. Hein. Leur pénis, c'est la longueur d'une cuisse pour un humain. Et ils ont quatre gros testicules.
Ah oui.
Qui ferait aussi pour un humain à peu près 5 kilos de bonbons. Quand même, c'est du lourd. Hein. Donc, et puis c'est assez obsédé. Quoi. On en a observé un qui s'était accouplé avec 18 femelles à la suite, sans s'arrêter, dans toutes les positions possibles, parce que c'est assez acrobatique ce truc-là. Et encore, c'est celui qu'on a observé. On ne sait pas ce que font les autres. Hein. Donc,
oui, peut-être que celui-là, c'était le plus sympa, le plus gentil. gentil.
Voilà, voilà, il était peut-être pas en forme.
Non, c'était peut-être le plus chaste. Je cherchais le mot.
Et alors, pour faire l'amour à sa partenaire, il a des griffes en forme de menottes. Donc, il a la menotte. Je vous laisse imaginer les soirées torrides des époux.
Des époux.
Dites-moi, Marc, vous avez quand même une culture du pou qui est impressionnante.
Ben, naturaliste, c'est, par définition, c'est chercher la petite bête. Et moi, je cherche aussi les poux.
Alors, attendez, la lune de miel, quand même, pour nous, peut être gâchée par des indésirables dans le lit, c'est-à-dire les punaises de lit. Alors, elles aussi, elles ont une sexualité, on va dire, débridée, quand même.
Ah oui, alors là, ça fait partie des histoires les plus étonnantes de la sexualité animale. Hein. Les punaises de lit sont de retour, hein, même dans les quartiers chics, c'est même pas une histoire d'hygiène. Donc, le mâle, lui, il a un pénis courbe et pointu comme un sabre, très tranchant, et il entaille la femelle au hasard. Et sa semence, au de hasard. Toute façon, arrivera dans les voies génitales, que ça se passe par la lymphe ou autre chose. Enfin, il y va au hasard.
On peut pas dire qu'il soit très délicat, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Il est pas regardant, non. Ouais. D'ailleurs, ça peut tomber sur des mâles, sur autre chose.
Ah oui.
C'est un bricoleur, c'est un marteau-piqueur, c'est ça?
Ah oui, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle l'accouplement traumatique, hein, parce qu'il y va. Et donc, chez certaines espèces, bon, ça peut tomber sur des mâles aussi. Les femelles en ont tellement... elles sont adaptées à en recevoir plein le dos, donc elles ont un pseudo-vagin dans le dos pour recevoir les coups de sable des mâles. Ah oui. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que les mâles aussi ont un pseudo-vagin dans le dos. Vous imaginez la vie sexuelle de ces petites bêtes, et tout ça se passe dans nos lits quand même.
Ah oui, quand même. On dort dessus quand même.
Voilà. On dort mal quand ils sont là.
Mais oui, c'est vrai.
Oui, parce que ça gratouille, c'est ça le problème.
Oui, ça pique, ça fait très mal. Hein. Et puis c'est pareil, c'est des obsédés sexuels. Hein. C'est 200 fois par jour, ça y va. Hein.
Je sais pas, il paraît qu'il y a des épidémies comme ça de punaises de lit, notamment, je crois, à New York, non? Il n'y a pas
un
truc comme ça.
On n'est jamais débarrassé parce que les produits chimiques, finalement, il y a toujours des insectes qui sont résistants.
Et oui.
Et donc les produits sont de plus en plus durs et pour nous-mêmes, mais les insectes, ils restent. Donc, de toute façon, on n'est pas débarrassé.
Et je sais qu'on avait interviewé une personne qui avait éduqué son chien pour détecter les punaises de lit dans les hôtels.
Oui. Pas mal.
Par l'odeur, justement. Alors, on a parlé des morpions qui profitent de notre vie sexuelle, mais il y a d'autres parasites qui profitent de la vie amoureuse de leurs hôtes.
Oui, parce qu'en fait, souvent, les parasites qui sucent le sang, il y en a plein d'espèces, hein. Ils sont branchés sur le système sanguin et ils font des véritables analyses de sang. Donc ils savent très bien, par exemple, les puces du lapin savent très bien quand la lapine est en chaleur, par exemple. Donc les puces synchronisent leur reproduction sur celle des lapins.
Ah oui.
Et comme ça, ils se rassemblent sur les oreilles quand ils ont senti que c'était chaud. Les puces s'accouplent elles-mêmes. Et quand les lapins s'accouplent, les puces passent d'un partenaire à l'autre. Comme ça, c'est pareil.
Au niveau des oreilles.
Sémine, voilà.
Parce que les mâles et femelles, enfin lapins et lapines sont très proches, on va dire.
Ah ben pendant l'accouplement, oui, ils sont un peu comme tout le monde.
Et comme le lapin n'est pas fidèle, et ben du coup les puces, voilà.
Ça y va.
Ça y va.
Eh bien, dites-moi. Alors, quel écosystème, Marc, franchement.
Alors, moi j'adore cette histoire. Vous savez qu'il y a un parasite, qui s'appelle le toxoplasme. Voilà, qui rend un rat amoureux d'un chat.
Alors ça, c'est les histoires les plus extraordinaires d'animaux que je connaisse. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce livre, parce qu'il n'y a pas de livre sur la vie des parasites. Quand on parle des parasites, c'est toujours en fonction des maladies et de ce que ça nous cause. Mais leur vie est passionnante. Les parasites sont capables de boguer le cerveau de leur adversaire, de leur victime, pardon, de lui changer de sexe, de le pousser au suicide. Et c'est ce qui se passe avec le protozoaire.
Alors attendez, donc le rat devient amoureux du chat?
Voilà, alors le parasite du rat, il, une fois qu'il est dans le rat, son but, c'est d'aller à l'intérieur du corps d'un félin. Et pour ça, il manipule sa victime, il lui bogue le cerveau, il lui pirate ses réseaux neuronaux et il lui fait confondre l'odeur de son prédateur avec un partenaire amoureux. Ce qui fait que le rat est complètement amoureux des chats et se jette dans sa gueule.
Ah oui.
Ah oui, c'est
parce que,
il en a
parce
plus
que
peur.
Lui, le chat n'est pas amoureux du rat, donc il en fait une bouchée.
Non, il est complètement manipulé, bogué, voilà, il est prêt à devenir un kamikaze et il y a plein d'histoires comme ça.
Et donc après, c'est-à-dire que le chat va mordre le rat et va être contaminé.
Voilà. Et le toxoplasme, voilà, arrive chez le chien.
Et la petite douve du foie, c'est pareil, ça commence dans un escargot, ça va ensuite dans une fourmi, ça bogue la fourmi qui va s'accrocher à un brin d'herbe, jusqu'à temps qu'elle soit broutée par un mouton, et là, la petite douve du foie ira dans le corps du mouton et dans le foie du mouton.
Incroyable.
Ça veut dire que les parasites nous manipulent, là.
Complètement, complètement. Oui, absolument.
Et puis, ils sont patients, hein, parce que j'imagine que pour la douve du foie, ça peut prendre du temps, hein.
Oui, oh bah, ils ont que ça à faire, hein.
Oui, remarquez, ils ont que ça à faire, vous avez raison. C'est vrai.
Alors, il y a aussi le ver solitaire. Alors, tout le monde le connaît, le ver solitaire, qui aime aussi le sexe.
Ah bah oui.
Même s'il est solitaire.
Alors oui, alors il a du mal à se reproduire. Donc il est hermaphrodite parce que bon, dans l'estomac de sa victime, il n'y a pas forcément beaucoup de partenaires. Donc il est hermaphrodite, il est sûr de pouvoir se débrouiller tout seul. Et on parle souvent de la baleine comme du plus grand animal du monde parce qu'il fait un peu plus de 30 mètres pour certaines femelles. Mais le ver solitaire de la baleine. Lui, il fait 50 mètres.
Le ver solitaire de la baleine.
Eh ben oui, on n'y pense jamais à celui-là. Donc je réhabilite ces pauvres animaux oubliés de l'histoire. Le ver solitaire de la baleine, lui, il fait plus de 50 mètres de long. Donc il a des testicules et des ovaires. Il en a plusieurs par segment. Entre 4 et 14 sexes par segment, il a 45 000 segments. Donc, si vous faites le calcul rapidement, le ver solitaire de la baleine possède jusqu'à 630 000 sexes à lui tout seul.
Eh bien, dites-moi.
C'est chaud, hein.
C'est chaud.
À la Saint-Valentin.
Alors, ouais, écoutez,
c'était
Marc.
C'est spécial, Saint-Valentin.
Moi, je pensais.
C'est de plus en plus romantique, ça.
Je pensais qu'on allait passer un dimanche matin pépère avec Laetitia, vous voyez. Nous diffuser du Barry White ou du Julio Iglesias. Et là, paf.
Mais la
645 000 sexes d'un coup, dit. Voilà. Bim. Bravo.
Merci Marc.
Beaucoup Marc.
Je vous en prie, bonne Saint-Valentin alors.
Alors si vous voulez connaître justement la vie passionnante des parasites et connaître aussi d'autres belles histoires, bah, je vous conseille votre livre qui est vraiment
drôle.
C'est très drôle et en même temps c'est super.
Et puis il y a des illustrations qui sont très drôles aussi.
Ah oui, de Roland Garrigue, oui,
c'est
saluer,
vraiment,
hein.
C'est très sympa.
Donc alors ça s'appelle La vie rêvée des morpions parce que c'est un titre accrocheur, mais en fait ça parle de plein de parasites.
Oui, il n'y a pas que le morpion. Donc c'est bien sûr La vie rêvée des morpions et autres histoires de parasites aux éditions de La Chaux et Nestlé. Et franchement, c'est alors même pour la Saint-Valentin, franchement, ça serait un beau cadeau.
Refilez-vous les morpions sans vous gratter.
Marc, merci beaucoup.
Merci,
je vous
Marc.
En prie, à
merci.
Très bientôt.
Bonne journée, au revoir.
Bon, alors écoutez Laetitia, je pense qu'on n'en a pas terminé avec les amours des animaux.
Non.
Si on s'intéressait maintenant aux amours canines et félines.
Bah oui, faut y penser.
Voilà. Parce qu'après les morpions, les puces, etc.
Nos chiens ont aussi une vie amoureuse.
Et oui.
Mais aujourd'hui, c'est aussi leur fête.
C'est pas trop torride, Laetitia.
Non,
parce qu'avec vous, parfois, je me méfie. Vous dites non, c'est pas torride, et puis bim, on en a partout.
Non. Nous avons un vétérinaire spécialiste de la reproduction des chats et des chiens.
Xavier Lévy.
Voilà.
Il sait se tenir à la radio.
Oui, il est chaste. Tout
ça,
va bien.
Ça va pas dégénérer.
Bon. Je sais pas.
D'accord. Allez, à tout de suite. C'était RMC, c'est le week-end des experts.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Les animaux, le week-end des experts, bon dimanche, merci d'être là. Jusqu'à 8h, Laetitia Barlerin m'accompagne. Et puis ensuite, ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Et en ce 14 février, Saint-Valentin, la Tiatia, après avoir quand même bien rigolé, hein, en compagnie de Marc Giraud qui était avec nous, auteur du livre « La vie rêvée des morpions », on est rentré, c'est vrai, un petit peu dans l'intimité de certains parasites étonnants. Après tout ça, on va revenir vers des animaux qu'on côtoie, alors j'allais dire pas plus souvent, peut-être pas finalement par rapport aux morpions, mais c'est vrai que qu'on voit et qu'on connaît mieux, ce sont les chats et les chiens.
Et voilà, et nous sommes avec un confrère, le vétérinaire Xavier Lévy, qui est spécialiste en reproduction animale, diplômé du Collège européen de reproduction animale, et qui exerce à l'Isle-Jourdan, qui est dans le Gers, au centre de reproduction des carnivores du Sud-Ouest. Xavier, bonjour. Bienvenue.
Merci beaucoup. Bonjour Laetitia. Bonjour François.
Alors, on va commencer par les
chiens. Bonne Saint-Valentin à vous
deux.
Oui,
hein, bonne Saint-Valentin. Ouais, oui.
Vous savez que nous, on est ravis d'être là aujourd'hui, hein, réunis pour cette Saint-Valentin avec Laetitia.
J'en ai aucun doute.
Je lui ai offert un café ce matin. Ça va, j'ai bien fait, Xavier. On s'est bien sorti.
C'est un bon début.
C'est un bon début. Bon, très bien.
Bon, alors parlons des amours des chiens et des chiennes. Bon, alors ils sont. Alors on sait que les chiens sont fidèles à leur maître. Mais est-ce qu'ils sont fidèles à leur partenaire? Est-ce qu'ils connaissent l'amour? Est-ce qu'un chien peut être amoureux?
Alors, c'est une bonne question. Alors, entre fidélité et amour, je ne rentrerai pas dans le débat. Mais oui, je pense que si on parle d'amour comme sentiment d'attachement et d'interdépendance entre individus, entre animaux, entre personnes, bah oui, pour moi, les chiens peuvent être amoureux. On a tous connu des histoires de chiens qui dépriment réellement, hein, qui font une vraie dépression quand ils perdent leur partenaire, que ce soit une chienne, d'ailleurs un mâle, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'hétérosexualité chez les chiens. Le refus d'une chienne d'être saillie par un autre mâle,
même si elle est en chaleur.
Oui. Même si elle est en chaleur, elle peut vraiment sélectionner son mâle, et pas uniquement pour des caractéristiques physiques, ça peut être aussi par rapport affectif. D'accord. Donc oui, je pense que le sentiment amoureux existe. Après, il est toujours difficile à définir, et là, ça dépasse mes compétences.
Alors, oui, on ne sait pas s'ils ont les petits papillons dans le ventre, etc. Enfin bref, voilà.
Voilà,
ça, ouais, exactement. Et non, ça on sait pas.
Et puis il y en a qui regardent, enfin voilà, qui rencontrent leur femelle et puis après ben ils la rencontrent plus quoi, ils s'en vont.
Voilà, c'est vrai, oui, la fidélité, j'avais oublié. La fidélité, c'est pas une notion très importante au sein du règne en général des mammifères et des carnivores domestiques, parce que ils ont pas besoin d'être fidèles pour aimer et ils ont pas besoin d'être fidèles pour procréer. Donc non, il y a aucune fidélité entre les chiens et les chiennes. Et effectivement, une chienne peut accepter la saillie par plusieurs mâles et un mâle sera bien heureux de pouvoir saillir plusieurs chiennes.
Alors, dites-nous un peu, on va rentrer dans du technique là.
Attention hein, Xavier, c'est tôt.
Je me tiens.
Dites-nous pourquoi les chiens qui s'accouplent sont souvent collés.
C'est-à-dire collés.
C'est-à-dire qu'on peut pas les séparer. Voilà. Et pourquoi il ne faut pas les séparer?
Exactement. En fait, le pénis du chien, si on rentre effectivement en technique, à la base de son pénis, il a ce qu'on appelle des bulbes érectiles. Et donc, quand le chien rentre en érection et en pleine érection, ses bulbes gonflent énormément. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ça nous arrive régulièrement d'avoir des propriétaires de mâles qui tout d'un coup nous appellent en disant « Je suis inquiet, les testicules de mon chien sont découverts et sortent du chien. » Parce qu'en fait, ils ont l'impression que ces énormes boules à la base du pénis sont les testicules. Non, ce ne sont pas les testicules, c'est le morceau du chien.
Voilà. Il en a quatre.
Exactement.
Ouais. Et alors,
ces bulbes ont une vocation. C'est-à-dire que le chien, vous savez, il a un os pénien. Donc en fait, il va s'introduire dans le vagin de la chienne sans complète érection. Grâce au tuteur, donc à l'os, à ce moment-là, il rentre dans le vagin de la chienne, et là, il va rentrer en pleine érection, donc en quelques secondes, ses bulbes vont gonfler, et en fait, vont bloquer le pénis dans le vagin. Donc, il ne faut surtout pas mettre d'eau froide pour essayer de les séparer, au contraire, il faut les canaliser, les calmer, et prendre son mal en patience. Et moi, pour expérience, mon feu chien, à l'époque, était un obsédé sexuel, et même castré, et un jour, il avait sailli involontairement, bien entendu, la chienne guide d'aveugle d'un ami, qui n'était pas aveugle, mais elle était en cours d'éducation, et on a dû attendre 45 minutes avant qu'ils se séparent.
Waouh! Ouais, ça fait long, hein?
Il faut combler, là, hein?
En 45 minutes, ça fait long. Parce que vous êtes trop habitué au coït rapide.
On est toujours sur l'échelle animale, Xavier, c'est pour ça. Je me permets, quand même. Et alors, bon, donc ça, c'est pour le chien.
Alors le chat. Alors entre l'accouplement entre chats, c'est un peu l'amour vache, hein, dire.
J'entendais mon prédécesseur qui racontait des aventures sexuelles et des débats assez vaches.
Oui.
Chez les chats, c'est un peu pareil. C'est vrai que il vaut mieux pas être le mâle, presque plus que la femelle. En fait, ce qui va se passer dans l'accouplement, c'est que le mâle a besoin de mordre le cou, alors sans méchanceté, mais de mordre le cou de la femelle pour se stabiliser et pour pouvoir la saillir. Si le chat ne mord pas le cou de la femelle, il ne peut pas la pénétrer. Et d'ailleurs, c'est des chats qui ont des problèmes de gingivite, ça peut être une cause d'infertilité parce qu'il n'arrivera pas à saillir la femelle.
Ah, donc, ça lui fait mal.
Il y a même des mâles qui sont tellement vigoureux à la saillie, qui saillissent de manière tellement répétée, qui finissent par entraîner des lésions sur sur la femelle.
Parce qu'ils mordent trop fort.
Exactement.
Alors, Xavier, ce que je vous propose, c'est que l'heure tourne et on est en tel suspense là, parce qu'on veut savoir comment ça se termine entre le chat et la chatte.
Non,
s'il vous plaît.
On fait du teasing là.
Non, excusez-moi. Vous savez, on est comme dans les grandes séries américaines. Il y a un truc qui va se passer. On ne sait pas quoi. Donc là, on va retrouver la météo, les infos, et on revient, et là, on prendra le temps de terminer cette histoire. Ça vous va?
Avec grand plaisir.
Allez, à tout de suite, c'était RMC.
Avec nous.
Là, le suspense, Laetitia, c'est intenable. Hein 3216 ou animaux@rmc.fr. On revient juste après la météo, les infos de 7h30. Laetitia Barlera, attention, je crois qu'il est temps de retrouver une petite question phare. En moins de 2 minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question d'Annie qu'on a reçue sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Au passage, vous cliquez sur...
J'aime.
Alors, ma fille de 4 ans, Laetitia, voudrait adopter une poule.
Une poule?
Ouais. Pensez-vous qu'elle soit capable de s'en occuper?
Alors d'abord Annie, c'est pas une mais au moins 2 poules qu'il faudra prendre, parce que les poules ne peuvent pas vivre seules, ce sont des animaux sociaux, donc ils ont besoin d'être en groupe.
Donc une, le poule, groupe... une poule toute seule déprime.
Ah bah oui, c'est, elle dépérit, donc c'est même pas la peine.
C'est vrai.
Ensuite, à 4 ans, si vous voulez, vous dire, mais on peut pas s'occuper d'une poule à 4 ans, c'est vous qui allez vous en occuper, bien entendu.
Bien sûr.
Et puis aussi, c'est pas un animal de compagnie, c'est un animal qui a besoin d'espace, qui vit dehors, dans un poulailler, avec un parcours herbeux, terreux, qui mange des déchets, donc ça c'est très bien parce qu'elle mange des déchets, elle donne des œufs. Mais est-ce que vous avez les conditions pour accueillir un poulailler chez vous? C'est la question à se poser. Alors, votre fille pourra aller caresser la poule si vous la privoisez bien. Mais il n'y a pas vraiment d'échange entre l'enfant poule.
Oui,
c'est,
oui.
Pas, c'est pas comme un lapin, par exemple, un chat ou un chien. Donc,
la poule est indépendante?
Elle aime bien être en groupe. C'est une proie, donc elle a souvent peur. Mais on peut l'apprivoiser, on peut lui apprendre des trucs. C'est vraiment, ça peut être affectueux dans le sens où elles peuvent venir vers vous puis aimer les caresses. Mais ça va pas au-dessus de ça.
C'est ça.
Hein, c'est pas comme un chat ou un chien qui vraiment a une relation avec l'enfant. Donc attendez d'abord qu'elle ait 8 ans peut-être, et peut-être offrez-lui un poulailler. Enfin, offrez à votre famille un poulailler si vous avez les conditions pour accueillir les poules, bien entendu. Et puis tester sa motivation. Peut-être qu'elle a vu un dessin animé avec une poule, je sais pas. Ou...
Bien sûr.
Voilà, souvent c'est ça. Ça change vite d'animal, hein, les enfants. Donc voilà, ne prenez pas de poule.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Retour du week-end des experts sur RMC. Bon dimanche. On est ensemble jusqu'à 8h avec Laetitia Barlerin. Et puis après, j'aurai le plaisir de poursuivre cette matinée en votre compagnie avec Jean-Luc Moreau pour l'automobile. L'auto, c'est chaque dimanche, vous le savez, entre 8 et 10. Laetitia, on fête dignement la Saint-Valentin aujourd'hui.
Ce
14 février, on pouvait pas passer à côté. Donc là, on a tout sorti. On a eu tout à l'heure Marc Giraud qui nous a parlé de la vie rêvée et privée des morpions. On a découvert aussi comment deux chiens s'accouplaient. Et là, on en est au chat, Laetitia.
Eh oui, au chat, voilà. Et l'amour vache, comme je disais tout à l'heure. Donc, nous sommes avec Xavier Lévy, qui est spécialiste en reproduction animale.
Oui.
Et donc, Xavier, vous étiez en train de nous dire que pour commencer l'acte sexuel chez les chats, le mâle mord
la femelle.
Le cou, voilà. Pour se stabiliser, comme
bien
vous dites.
Exactement.
Et ensuite.
Donc, après, en plus, il faut savoir que les félins, en règle générale, ont un pénis spiculé. Donc, il y a des petites spicules un peu comme un cactus, quoi, comme un peu moins agressif sur le pénis. Et donc, quand le mâle pénètre la femelle, il y a quand même un effet de frottement qui est conséquent sur les muqueuses vaginales. En fait, ça a une vocation, hein, c'est fait pour stimuler l'ovulation. Et après, ce qui est le plus important, c'est surtout la réaction post-coïtale, c'est-à-dire la réaction de la femelle.
Oui.
Une fois que le chat, parce que la saillie dure quelques secondes, hein, et une fois que
c'est beaucoup plus court que le chien.
Ah oui, là, c'est très très court. Donc, une fois que ça peut rassurer certains. Une fois que le chat a fini de saillir la femelle,
oui.
Et ben là, on va avoir une femelle qui va s'énerver. Donc, elle va rouler en boule, feuler et souvent agresser le mâle.
Et
le griffer, vraiment lui sauter dessus.
Pourquoi? Parce que ça a été trop court, peut-être, justement.
Non, c'est une telle stimulation, une telle excitation.
Ah oui, d'accord. Okay.
Vous n'avez pas remarqué que parfois, quand vous caressez un chat ou une chatte sur les fesses, beaucoup, 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 vous avez des chats, ils sont tout contents d'être caressés, mais vous les caressez tellement qu'à un moment, ils pètent un plomb et ils ont tendance à griffer. Ils ont une réaction par rapport à ça.
Ouais.
Et c'est un peu, à mon avis, c'est dérivé de ça, de la réaction post-coïtale.
D'accord.
Et du coup...
Oui, mais enfin, il y a quand même les petites spicules sur le pénis.
Ah, oui, tout à fait. Les spicules sont là, en fait, vraiment pour stimuler certains récepteurs dans la muqueuse vaginale qui vont permettre de déclencher des pulses hormonaux pour déclencher l'ovulation.
Voilà, parce donc, qu'après, voilà. L'ovulation chez la chatte est provoquée.
Voilà, l'ovulation est provoquée chez la chatte. Et alors la chatte a cette réaction, et d'ailleurs ça permet de savoir si une chatte a été saillie. Parfois on peut nous amener des chattes infertiles, donc qui n'ont pas été gestantes, les personnes pensant que ces chattes ont été saillies, mais en fait ils n'ont jamais observé cette réaction plus que l'itale. Et en général, s'il n'y a pas de réaction après, agressive de la chatte, et nous, quand on fait de la reproduction assistée, parfois on est amené à stimuler l'ovulation des chattes manuellement, on fait très attention à leur réaction post-coïtale parce qu'on peut vraiment se faire lacérer le visage méchamment, juste par réflexe.
Alors justement, dans votre structure, vous avez une banque de sperme, c'est ça ?
Oui, on a une banque de semences canines et félines, essentiellement canines. Ça peut paraître original.
Oui, pourquoi ? Parce qu'ils ont des problèmes pour se reproduire ?
Non, en fait, ça a deux grandes vocations. Si vous voulez, aujourd'hui, dans les chiens de race, si on parle de chiens essentiellement de race, l'objectif d'un, si on fait de la sélection, c'est-à-dire si l'objectif c'est de faire en sorte que la race soit le mieux possible, tant en termes de santé que de comportement, que physique, et que pour éviter certaines maladies, il va falloir sélectionner des partenaires. On va pas systématiquement accoupler une femelle avec le même mâle. Ça serait une consanguinité et un appauvrissement important. Du coup, on va aller chercher des mâles de plus en plus éloignés. Et ces mâles qui sont de plus en plus éloignés, une des solutions, c'est de congeler la semence et de l'envoyer, ce qui permet de s'affranchir des frontières géographiques. Donc on peut envoyer.
Donc elle peut ne jamais connaître l'amour,
exactement.
Quoi. Mais être gestante.
Exactement. Elle peut ne jamais avoir connu le coït, mais être gestante. Mais après. Je ne suis pas sûr que la saillie soit toujours une bonne expérience pour la chienne, parce qu'il y a énormément de chiennes qui supportent mal l'épisode de saillie. Il y a beaucoup de saillies qui ne peuvent pas se faire, parce que soit la chienne refuse le mâle qu'on lui aura choisi, parce que c'est pas elle qui va choisir.
Et oui, c'est ça le problème.
Et voilà. Et après, l'autre vocation de la banque de soins, c'est pour des chiens qui auraient une grande valeur, mais qui pourraient décéder, c'est une sorte d'assurance vie, ça peut être aussi un chien d'un particulier. Là, juste, on a eu le résultat hier d'une chienne guide d'aveugle. Par exemple, dans l'association des chiens guides d'aveugle, ils ont besoin de faire des golden retrievers de qualité.
Oui.
Et ils utilisent de plus en plus la semence congelée, ce qui leur permet d'utiliser des mâles qui sont connus, par exemple, pour être indemnes de dysplasie de la hanche, qui sont connus pour avoir un certain nombre de qualités requises pour ces chiens-là. Et en fait, ils nous font congeler la semence. Et comme ça, on insémine des chiennes à travers le temps.
Parfait, merci beaucoup.
Merci Xavier, merci beaucoup.
Passionnant,
c'est vrai. Merci, je rappelle que vous êtes spécialiste en reproduction animale et vous avez le centre, vous exercez au centre de reproduction des carnivores du Sud-Ouest à l'île Jourdain.
Vous avez pas remarqué une recrudescence, Xavier, on va dire des câlins chez les chats et les chiens le jour de la Saint-Valentin quand même. Non.
Peut-être certains qui s'habillent en chat et en chien, mais les chats et les chiens, je ne sais pas.
Ça, on va dire que c'est de leur plein gré. C'est autre chose. Hein, on est d'accord.
C'est sûr que ça peut être chaud.
Miaou. Miaou. Bon, allez, on se calme. Merci Xavier, à bientôt.
Merci.
C'est un plaisir.
Bon dimanche, au revoir.
Bon dimanche.
Bon, Laetitia, ça va être difficile d'enchaîner. Là,
oui,
parce
là,
que
la transition est
un petit peu brutale. Mais nous sommes malgré tout ravis d'avoir notre camarade Xavier Baquet qui est au téléphone avec nous. Bonjour, maître.
Bonjour, bonne fête à tous les deux. J'ai envie de vous dire, l'enchaînement est facile. Un Xavier succède à un Xavier.
C'est voilà,
exactement.
François,
Xavier, comme vous êtes un peu facétieux, je vous connais bien, je sais quand même. Je me suis dit, si on va trop sur une pente glissante avec maître Xavier Baquet, on va avoir du mal à enchaîner sur notre sujet. C'est pour ça. C'était ça ma transition, si vous voulez.
D'accord.
Ça va. Je vous sens gentil et sage aujourd'hui. Donc tout va bien.
Tout à fait. Et j'ai envie de vous dire, l'amour. Rend aveugle, mais rend aussi très méchant. Et ce dossier est la transition, en fait.
Oh mon Dieu, c'est tellement bien.
Alors, on va rappeler ce dossier. Alors, c'est une affaire, sordide, quand même, dont l'aboutissement est peut-être un espoir pour tous ceux qui œuvrent justement pour la protection animale. Le 1er février dernier, un homme a été condamné à 2 ans de prison ferme, et je le dis ferme, et 6 mois de sursis pour maltraitance, acte de cruauté envers un animal. Rappelez-nous les faits.
Les faits sont très simples. Scène de ménage, monsieur est jaloux de madame parce que madame visiblement a un amant. Ils veulent quitter et pour se venger, on va faire bref, pour se venger, va prendre le chat de madame, va asperger le chat d'un produit inflammable, il va lui mettre le feu. Et le chat donc se transforme en boule de feu et il va le jeter du 7e étage.
Voilà.
Et le chat va se retrouver au sol. Oui, mais attendez, le chat se retrouve au sol. Le chat n'est pas mort sur le coup, c'est-à-dire qu'il va rester une heure à agoniser sur le sol. Les voisins, enfin les entourages vont intervenir. Là, le chat va être transporté dans une clinique vétérinaire. Et bien évidemment, vous le savez, Tia, parce que vous êtes vétérinaire, et bien le vétérinaire va essayer, mais il ne pourra rien faire tellement le chat souffrait. Et le chat souffrait tellement que même le produit létal pour... Allô ? Vous m'entendez ?
Oui. Vous avez un double appel, produit, Xavier.
Voilà.
Je pense qu'on produit, on doit vouloir vous souhaiter la Saint-Valentin, c'est pour ça.
Voilà, ça devrait être ça. Même le produit létal pour tuer le chat, il a dû mettre une forte dose parce que le chat était en surdouleur, donc il y avait une résistance. Et donc le chat a été euthanasié. Et voilà, si vous voulez, comment ce dossier est arrivé en comparution immédiate, donc devant la juridiction correctionnelle de Nice. Bien évidemment, tout ça arrive un vendredi, donc bon, la fondation est saisie par les faits et on a
la fondation 30 millions d'amis. Hein.
30 millions d'amis, bien sûr, excusez-moi. On a dû se mobiliser durant le week-end et il se trouve que j'ai donc représenté la fondation 30 millions d'amis, mais aussi la Confédération nationale des SPA et la fondation Assistance aux animaux qui cherchaient également un conseil pour pouvoir les défendre dans ce procès horrible. Et donc, c'est dans ces conditions que nous sommes arrivés à l'audience. Et là, heureusement, nous avons eu un ministère public qui a pris conscience de la cruauté et qui a été très sévère, qui a été juste aussi parce que rappelle des faits et les conséquences des faits de manière très objective et qui a considéré que c'était des actes qu'il ne fallait pas laisser passer et qu'il fallait durement sanctionner. D'où cette peine qui est pour moi exemplaire parce que...
Mais exemplaire, ça veut dire quoi? Parce que selon les textes de loi, que risque une personne qui maltraite un animal?
Alors là, c'est un acte de cruauté, donc c'est ce qu'on appelle l'article 521.1 du code pénal. C'est 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Mm-hmm. Donc
ils ont été au-dessus de 2 ans de prison, puisqu'il y a aussi du sursis.
Oui, il y a aussi du sursis. Donc c'est là où effectivement les magistrats ont été très 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 sévères. Et quand je dis exemplaire, pourquoi? Parce que on avait un précédent, vous savez, de ce jeune homme qui avait été condamné à un enferme pour avoir balancé un chat contre un mur.
Et l'avoir filmé.
Tout le monde avait dit oui, c'est bien. Mais non, j'avais expliqué que cette année ferme prononcée n'était pas liée au fait du chat, était liée à son casier judiciaire et que la juridiction était liée par les peines planchers est obligé de mettre un enferme. Là, on n'était pas dans ce cas-là. Le prévenu, donc le condamné, avait un casier vierge, et donc c'est bien une peine qui est liée aux faits eux-mêmes. C'est en ça, je dis, que c'est exemplaire. C'est-à-dire que la juridiction a bien pris en compte la gravité de tel fait. C'est-à-dire que on ne peut pas excuser une vengeance, un acte en s'en prenant un animal.
Dire quand même que ça sera un jugement exemplaire, dans le sens où c'est important peut-être pour la suite aussi, ce jugement pour vous.
Oui, alors on va mettre un bémol parce qu'on a appris que bien évidemment le condamné avait relevé appel. Donc tout ce dossier va revenir devant la cour d'appel. Que fera la cour d'appel, à mon avis, je ne la vois pas revenir de manière complètement en sens opposé. Donc je pense que malgré tout, enfin, on va pas présumer, mais malgré tout, ça restera une peine exemplaire. Oui, je pense que ça pourra faire date, effectivement, en termes de jurisprudence, évidemment.
Est-ce que les juges sont plus sensibilisés aujourd'hui qu'hier à la protection animale?
Alors, j'ai envie de vous dire, depuis que le combat de la Fondation 30 millions d'amis, notamment pour l'article 515-14 du Code civil, vous savez, la reconnaissance de l'animal dans le Code civil, du caractère sensible d'animal vivant, doué de sensibilité, est effective dans le Code civil, oui. C'est étrange, hein, alors qu'on le savait tous, hein, il y a eu une prise de conscience de plus en plus accrue du fait qu'on s'en prend à du vivant qui souffre. Donc les magistrats, qui, même ceux qui étaient réticents à un moment donné, eh bien, le fait d'avoir modifié le Code civil, ça a permis cette prise de conscience. Donc nous, je peux vous dire que ça nous facilite la tâche en tant qu'avocat spécialisé, mais je peux vous dire que depuis 18 ans que je plaide ce genre de dossier, on va dire qu'on aura grosso modo souffert quelques années pour arriver à des résultats aujourd'hui qui sont à la hauteur de notre combat en définitive.
Donc c'est quand même une affaire sordide qui il y a quand même du positif dans le sens où voilà, ça va peut-être faire
ça va faire avancer le droit, peut-être réfléchir les gens, parce qu'il faut pas oublier que la violence animale elle est souvent précurseur ou concomitante à la violence humaine.
Bien sûr. Les serial killers ont d'abord commencé par les animaux.
Tout à fait.
Non mais excusez-moi, mais là c'est un serial abruti surtout.
Oui, on peut. Mais vous savez, quand je commençais avec une boutade en disant l'amour rend aveugle, il rend aussi méchant. Oui, parce que on est tous des êtres de passion.
Bien sûr, mais que par exemple on veuille punir son conjoint pour une raison ou pour une autre, et que je sais pas, on casse un vase ou un téléphone, d'accord. Oui. Mais quand on s'en prend un animal, c'est qu'on est un abruti.
Là, vous prêchez un convaincu.
Mais
bien évidemment. Pour moi, rien n'excuse ça. Ça, c'est évident.
J'ai quand même vu dans le texte, juste pour finir, que le fait de tuer volontairement un animal est seulement passible d'une amende de 750 € maximum.
C'est autre chose. Ça, c'est l'article R655-1 du code, c'est-à-dire le fait de tuer sans nécessité un animal. La grande différence entre cet article-là et ce qui nous pose encore problème, et peut-être que le législateur va devoir revenir dessus, c'est que si vous tuez un animal en lui tirant dessus, par exemple, et que la mort est instantanée, là, effectivement, vous êtes bêtement en peine contraventionnelle, cet article R655-1. Donc, c'est sordide. Par contre, vous tirez sur le même animal, mais l'animal ne meurt pas de manière instantanée, il meurt 5 minutes plus tard.
D'accord.
Il va souffrir, et là, on est sur 521 acte de cruauté. C'est là où on se bat encore, nous, en disant, écoutez, il faudra harmoniser, parce que tuer, c'est tuer. Quoi, je veux dire, donc voilà.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.
À très bientôt.
C'est toujours un plaisir, maître.
Merci.
Et
beaucoup.
On vous souhaite une magnifique Saint-Valentin.
Elle sera bonne.
J'en suis sûr. Merci, maître.
Au revoir.
Laetitia, on va revenir dans un instant et on va se tourner du côté du petit écran avec une série étonnante, Vétérinaire, leur vie en direct, qui sera diffusée à partir de cet après-midi sur TF1. On en parle avec l'auteur et le réalisateur de cette série. A tout de suite, c'était RMC, c'est le week-end des experts.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Le week-end des experts et les animaux avec Laetitia à mes côtés jusqu'à 8h. Vous le savez, Laetitia répond à toutes vos questions animaux. Et en ce 14 février, Laetitia, on va s'intéresser à un nouveau programme qui sera diffusé cet après-midi même sur TF1 à 16h.
À 16h, et c'est sur les vétérinaires, bien sûr.
Votre métier, Laetitia.
Mon métier. Nous sommes avec l'auteur et le réalisateur de la série qui s'appelle Antoine Baldassari.
Bonjour, Antoine.
Merci d'être avec nous. Alors, vous avez décidé dans votre série de suivre dans leur quotidien des vétérinaires français. Alors, moi, la question, pour moi, c'est normal, mais pourquoi avoir choisi cette profession? Pourquoi les vétérinaires fascinent autant?
Parce que les animaux fascinent beaucoup nos compatriotes et que moi, j'ai fait ce genre de mission dans divers univers. Le dernier en date, c'était avec la police, vous voyez, donc c'était complètement différent. Et puis là, on s'est dit... Il y a quelque chose de très intéressant parce que les animaux sont vraiment très importants aux yeux effectivement des Français, qu'il y a une communauté de gens qui sont là pour les sauver, pour les prendre en charge, et finalement à travers ça on découvre un métier d'abord qu'on connaît mal finalement quand on parce que là on est vraiment de leur côté avec une soixantaine de caméras qui filment l'intérieur des cliniques, on est vraiment au plus près d'eux, et à la fois on raconte des tranches de vie, finalement des histoires extrêmement fortes. Quand vous venez avec votre animal parce qu'il est blessé, vous êtes très touché, vous êtes parfois meurtri, vous êtes sous tension et vous espérez qu'une chose, c'est qu'on le sauve, c'est qu'on le soigne. Et du coup, le rôle, la mission du vétérinaire, elle est extrêmement importante. Elle est autant médicale que psychologique vis-à-vis du maître, vis-à-vis du propriétaire de l'animal. Et puis, à l'animal lui-même, évidemment, qu'on a envie de voir sauver, qu'on a envie de voir soigner. Et du coup, on passe par toute la palette des émotions à travers cette série. On est allé s'installer dans deux des plus grands.
Voilà. Dans trois endroits différents que vous avez filmés pendant un mois en simultané.
Absolument. Voilà. On est allé dans un hôpital vétérinaire à Arcueil, qui est sans doute le plus grand d'Europe. Enfin, c'est sûr même. On est allé à Frégis. On est allé à l'hôpital Norvette à Lille, qui est plus, qui n'a pas de spécialisation, alors que Régis est très très spécialisé sur des techniques chirurgicales notamment. Ils reçoivent des animaux de toute l'Europe. À Lille, on est plus sur le, enfin, on est sur le chien et le chat principalement, et on est plus chez des vétérinaires de proximité, on va dire. Et on est allé du côté du zooparc de Beauval.
De Beauval, voilà.
Pourquoi ? Parce qu'on avait aussi envie de voir des vétérinaires qui s'intéressent et qui suivent des animaux sauvages. Et du coup, on a, là, on rêve avec eux. Hein. Moi, j'étais dans Dactari hein, quand je faisais ça, parce que j'avais les yeux qui pétillaient. Et à la fois, à Frégis et à Lille, eh bien, on était avec des gens qui avaient un super état d'esprit, et on a rencontré vraiment des communautés de gens, un métier, une profession, et puis, encore une fois, tous les maîtres, les propriétaires qui viennent. On a assisté à des moments où carrément les gens viennent avec des cadeaux parce que la vétérinaire vient d'avoir un petit garçon. Il y a quelque chose de très fort parce qu'on vient régulièrement faire soigner son animal. Donc il y a de l'empathie derrière tout ça.
Je dis souvent que nous sommes un peu les pédiatres des animaux, c'est-à-dire que les propriétaires nous prennent souvent pour comme les pédiatres, on a une relation aussi, c'est vrai, affective aussi avec son vétérinaire.
Oui, et puis il y a un truc, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais vous connaissez l'expression montre-moi ton animal, je te dirai qui tu es. On rencontre des gens qui vient avec un serpent, qui vient avec un perroquet, qui vient avec un chihuahua, avec vraiment un attachement. D'ailleurs, il y a un vétérinaire, Bertrand, le patron d'ailleurs de l'hôpital en Norvège, qui dit un moment dans la série. Tant qu'on n'a pas compris qu'un animal est un membre de la famille, on n'a pas compris notre métier. On n'a pas compris ce qu'on doit faire auprès de l'animal et des gens et des propriétaires.
C'est-à-dire qu'il faut le considérer comme pratiquement un être humain, finalement.
Exactement. Ouais. Exactement. C'est très étonnant. Alors, on l'a tous vécu parce que peu ou prou, on a tous eu à un moment donné dans sa vie un animal ou un attachement pour des animaux. Mais de le voir avec un accès un peu exclusif comme ça, avec des caméras qui sont à la fois dans la salle d'attente, dans les salles de consultation, dans les blocs opératoires, dans les salles de soins, où d'ailleurs on rencontre aussi tous les assistants vétérinaires qui sont très sympas, parce
toute
qu'il y a,
l'équipe,
y a vraiment,
ouais.
il y a, voilà, c'est un les... travail d'équipe, exactement.
Oui, mais c'est un vrai travail d'équipe, avec les auxiliaires et tout, que vous mettez en valeur. Et comment on réagit justement, mes confrères et consoeurs et les équipes, quand vous leur avez proposé d'être filmés? C'est pas évident, parce qu'on est dans un métier où,
Je vais vous dire ce qui est évident, en fait, c'est que, quand vous êtes dans un métier comme ça, je pense qu'on n'est pas vétérinaire par hasard. C'est une vocation. C'est exactement comme les médecins. C'est exactement comme les urgentistes. C'est exactement comme les policiers. Ce sont des métiers, finalement, où il faut qu'il y ait une passion derrière ça. Il y a une vocation, en tout cas. Et tous les vétos et je suis sûr que si je vous pose la question à vous-même, Laetitia, vous en rêviez depuis toute petite,
ah
sans
oui,
doute.
Depuis 5 ans, il paraît. Depuis l'âge de 5 ans.
et c'est exactement ça. Donc, ce sont des gens qui ont été très touchés de la proposition et qui ont eu envie de montrer de transmettre un bout de leur passion et de montrer leur métier. Voilà. Et c'est vrai que quand on les voit vraiment au boulot sur la table d'opération ou avec des chiens qu'ils essaient de sauver, et ben là, ils nous montrent vraiment leur métier.
Merci Antoine,
merci.
Rendez-vous
merci.
Cet après-midi donc à 16h sur TF1.
Mille merci pour avoir fait cette série, d'y avoir pensé, et c'est bien de montrer notre métier, c'est bien de montrer les coulisses et de montrer tout ce qu'on fait et l'empathie et comment on sauve les animaux aussi, c'est super.
Merci Antoine.
Merci beaucoup,
merci.
Bonne journée.
Merci. Rendez-vous ce soir 16h donc sur TF1, Vétérinaire, leur vie en direct.
Laetitia, donc à 5 ans, vous aviez déjà envie d'être vétérinaire, et rappelons qu'à 8 ans, vous pratiquiez votre première opération chirurgicale sur un chien qui évidemment l'a fortement regretté.
Non,
c'est pas
mais
vrai.
Bon.
Non, bien sûr,
ouais.
Je plaisante.
Mais c'est vrai, toute petite à la maternelle. Hein.
Ouais.
Mais tu veux être quoi? Vétérinaire.
Notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin, la tia-tia. Bah, comme toujours, c'est mignon.
Voilà. Bah, alors, c'est pas du tout sexuel.
Ah, non,
c'est plutôt
non.
Affectif, c'est, notre vidéo. Voilà.
C'est des chiens avec des amis, comment dirais-je? Étonnant.
Bah oui, c'est souvent il y a des amitiés étonnantes entre deux espèces différentes.
Complètement.
Même des fois des espèces proies prédateurs et en fin de compte ils deviennent amis et ils se font des bisous et voilà.
C'est trop mignon.
C'est
voilà.
Une sélection des meilleures séquences.
Une belle vidéo pour célébrer la Saint-Valentin, donc à retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Laetitia, plein de bonnes choses pour ce dimanche. Et on sera là, bien sûr, la semaine prochaine entre 6h et 8h.
Bon dimanche à tous, bonne Saint-Valentin et à la semaine prochaine.
Et dans un instant, après la météo et les infos, ce sera Jean-Luc Moreau. Je ne vais pas lui céder la Saint-Valentin. Hein, ça ne sert à rien, c'est pas la peine. A tout de suite.